Je pense que quand on connaît ces sujets, qu'on a vraiment passé du temps dessus, déjà on se sent un petit peu plus sécurisé quand on va défendre ce sujet-là, essayer de le vendre, le présenter, même en parler même à d'autres personnes. Après il y a la question de voilà, est-ce que c'est un sujet qui a sa place ou pas dans un magazine, c'est encore autre chose, mais ouais, déjà connaître ces sujets à fond, pas juste les survoler. S'intéresser vraiment aux questions, aux problèmes, à tout ce qui entoure le sujet, que ce soit un petit sujet ou un grand sujet, ça permet de se sentir légitime.
Bienvenue dans le podcast des photographes professionnels. Dans cette émission audio, je partage avec vous de grands entretiens avec des experts de la photo, de la vidéo, du journalisme ou encore de l'entrepreneuriat, dans le but de vous aider à progresser et vous épanouir dans votre activité professionnelle. Cet épisode a été enregistré à Perpignan, dans le cadre du festival de photojournalisme Visa pour l'image. Comme chaque année, nous nous y rendons avec les photographes du collectif DR, et c'est justement avec l'un d'entre eux, à savoir Oscar Schubert, que nous avons rendez-vous aujourd'hui. Il nous parlera de son parcours ainsi que du reportage qu'il vient de publier dans le livre DR3, actuellement disponible en précommande. Je vous mets un lien en description de cet épisode. N'oubliez pas de vous abonner au podcast pour être tenu au courant de la sortie des prochains épisodes, et si ce format vous plaît, n'hésitez pas à le faire savoir en le partageant ou en laissant un commentaire ou une note sur votre plateforme d'écoute préférée. Je vous laisse en compagnie d'Oscar et vous souhaite une bonne écoute.
Salut Oscar, est-ce que tu peux te présenter?
Bonjour Fred, oui tout à fait, donc je suis Oscar Schubert, basé dans le Finistère en Bretagne, à côté de Brest. Je suis photographe de reportage documentaire. Je me concentre sur des sujets plutôt sciences et environnement, mais aussi des initiatives locales, un petit peu de news aussi. Et je fais partie du collectif DR depuis 2019.
Ouais, tu fais partie des premiers.
Quasiment, oui.
Et donc en ce moment, on est à Visa pour notre édition, enfin pour l'édition de 2023 de Visa, et puis pour se retrouver tous ensemble, pour bosser, pour réseauter, faire plein de trucs. Et ce podcast s'inscrit toujours, hein, on l'a vu avec nos autres camarades, dans la sortie du bouquin numéro 3, livre photo. Toi, tu présentes quoi comme sujet à l'intérieur?
Du coup, moi, j'ai un sujet réalisé en Savoie, dans la vallée de la Maurienne, sur les personnes qui vivent et travaillent à proximité des sites Seveso. Les sites Seveso, c'est des sites industriels à risque majeur. On en compte plus de 1 300 en France. Et de fait, il y a plus de 1 million de personnes qui sont concernées en fait, directement par la proximité de ces sites. Et donc, quand on parle de risque industriel, on parle de risque de contamination chimique, de risque d'explosion. On a tous en tête l'accident d'AZF à Toulouse, plus récemment Lubrizol à Rouen. Voilà. Et l'idée, c'était d'aller à la rencontre des personnes qui vivent à proximité de ces industries, de ces usines, récolter leurs témoignages et voir comment ils vivent cette proximité et ce risque.
Ouais. C'est super original. Bon, on a choisi dans le bouquin ce reportage. T'as fait plein d'autres trucs et celui-là était vraiment intéressant dans le cadre du bouquin parce que le budget c'était de montrer les problématiques écologiques, environnementales. Il faut quand même qu'on montre aussi le danger, mais d'un danger qui n'est pas celui qu'on voit à la télé tous les jours parce que, bah, bon, après, il y a des intérêts dans les médias, on ne rentrera pas dedans. Hein, c'est passionnant, mais je pense que les gens qui nous écoutent iront faire leurs propres recherches. On va plus facilement parler du réchauffement climatique et d'autres trucs comme ça que ben, les risques de ces boîtes qui polluent le quotidien littéralement et qui mettent une épée de Damoclès au-dessus de la tête des gens.
Ouais, tout à fait.
Et c'est vachement intéressant de le mettre en avant, même s'il n'y a pas de parti pris. Hein. Tu as fait ton boulot de journaliste en montrant, bon, certes, un côté, pas forcément celui de l'industriel, parce que j'imagine c'est compliqué aussi à faire en image en plus.
Ouais, tout à fait. Bah, y a une question d'accès, puis là, c'était un parti pris aussi de voilà d'avoir ces témoignages-là. Le discours officiel des industriels, j'en reparle un petit peu. Hein. On a les données des efforts aussi qu'ils ont fait pour diminuer les pollutions, etc. C'est des choses qui sont publiques. Hein, mais voilà, l'idée, c'était vraiment surtout bah, dans le cadre en plus du livre où on parle de l'homme et de son environnement, c'était de voir comment ces populations-là vivaient cet environnement très particulier. Et en plus, qui concerne souvent un certain type de population, puisque les zones autour de ces sites industriels sont souvent les zones aussi où l'immobilier est moins cher, à la location, à l'achat. Donc on a des classes plutôt populaires qui vivent là.
Ouais. Et c'est. Pour venir sur un peu ton parcours, c'est des sujets qui te tiennent à cœur, les sujets plus environnementaux, de société qui touchent à l'environnement. C'est pourquoi d'ailleurs? Qu'est-ce qui t'attire là-dedans? Et peut-être pourquoi, question qui est liée à ça, c'est pourquoi le photojournalisme et qu'est-ce qui t'a fait mixer un peu les deux?
Moi, j'ai un parcours un petit peu particulier. Je viens d'études scientifiques à la base. J'ai fait un bac plus 5 en sciences de l'environnement et notamment sur l'environnement marin. J'ai travaillé un petit peu dans ce domaine-là et notamment dans des réseaux d'espaces naturels protégés. Donc c'est quelque chose voilà qui m'a toujours sur laquelle un sujet enfin des sujets sur lesquels ma curiosité m'a toujours porté et je pense que voilà j'ai une fibre environnementaliste qui est là et que voilà et que j'assume tout à fait et moi ce qui m'a intéressé dans le journalisme et le photojournalisme, alors la photo j'en fais depuis 10 ans, mais c'est vrai que j'ai plus commencé avec du corporate, avec un peu de mariage, ce genre de choses, comme beaucoup de mes collègues. Mais je trouvais ça un petit peu limité, en fait, et j'avais envie d'aller plus loin et de pouvoir vraiment creuser des sujets en profondeur. Et c'est là que peut-être on peut faire justement le rapprochement entre la démarche scientifique et la démarche journalistique. Il y a plusieurs points communs. Enfin, je retrouve des points communs là-dedans. Et notamment enfin des valeurs communes d'intégrité, de recherche, d'information, d'honnêteté intellectuelle qu'on essaye peut-être un peu d'avoir. Un rôle aussi enfin une envie de découvrir des choses, un rôle d'informer, de porter à connaissance certaines choses. Et apporter un petit peu une pierre à l'édifice de la connaissance. Et en science, un scientifique tout seul, voilà, va faire sa petite étude dans son coin, et s'il reste tout seul dans son coin, ça va pas faire grand-chose. Et c'est la somme de toutes les études, et la force aussi en science, et un petit peu en journalisme, c'est que les collègues se review, on appelle ça entre eux, donc ils vont vraiment vérifier les informations entre eux, en plus de les vérifier au sein de leur propre démarche de recherche. Et ça, c'est aussi une méthodologie qu'on retrouve à la fois en sciences, en journalisme. Enfin, en tout cas, moi, je fonctionne beaucoup comme ça. Je pars avec une hypothèse. J'essaie d'avoir le moins d'a priori possible et d'idées préconçues quand je pars sur un reportage, mais on en a toujours forcément un petit peu avec notre bagage personnel, historique, etc. Mais je pars avec cette hypothèse-là. J'essaie de la confronter à la réalité du terrain avec des témoignages, des choses comme ça. Voir si elle se vérifie ou non. Et des fois, c'est encore plus intéressant quand elle ne se vérifie pas. Parce que c'est là qu'on a des surprises en termes d'informations, ça peut être très intéressant. Et ensuite rendre du coup cette nouvelle connaissance disponible au public. Et éventuellement, voilà, il y a un reviewing aussi qui s'opère dans les comités de rédaction ou même nous au sein du collectif. On s'échange un petit peu des informations et des conseils sur les sujets et on se check un petit peu les informations, voir s'il n'y a pas d'erreur, etc.
Ouais, c'est vrai, c'est vachement intéressant le parallèle. Je l'avais jamais fait avant, mais c'est vrai que et pas forcément dans le rendu final au final, parce que d'ailleurs, il y a toujours un petit. Le Covid et tout, on remis au centre du débat aussi les vérités scientifiques, tu sais, dans les médias. Et tu as beaucoup de médias qui ont une ligne éditoriale très particulière et qui utilisaient les recherches. Tu sais, c'est un peu aussi les fake news qui font ça, qui vont te sortir une étude scientifique pour prouver quelque chose et faire marcher le biais de confirmation des lecteurs. Mais en même temps, si on prend l'espace médiatique, pas espace médiatique, mais justement les gens qui fabriquent l'information, à savoir le journaliste de terrain, qui va aller enquêter, qui va aller faire des recherches et comprendre quelque chose, et qui va sur le terrain, et qui part avec une idée, à l'instar en fait d'un scientifique qui part avec une hypothèse, et qui va la tester par une expérience, en fait le journaliste qui va, avec ses idées préconçues, poser des questions à des gens et avoir une réponse qui est complètement aux antipodes de ce qu'il avait imaginé lui, va apprendre énormément et va pouvoir l'expliquer. Tu es dans une recherche de vérité et le mot est important parce que je pense qu'au final, effectivement, que ce soit dans la science ou dans le journalisme, le mot vérité, il est ultra fluctuant où tu peux.
Ouais, tout à fait. Puis on est, comme tu dis, dans une vraie crise de confiance envers les scientifiques et envers les journalistes, hein, dans la société d'aujourd'hui. Et c'est vrai que moi, je m'efforce d'expliquer des fois à des gens avec qui j'en discute et qui, voilà, qui émettent des doutes sur la sincérité de certains sujets dans les magazines ou la sincérité de certaines études scientifiques. J'essaye de leur expliquer en fait comment ça se passe derrière concrètement, comment on fonctionne. Il ne faut pas oublier que voilà, c'est aussi des humains qui sont derrière ça, pour l'instant encore, c'est pas encore partout l'intelligence artificielle. Et que oui, bien sûr, il y a des biais, et on rencontre les mêmes problématiques et les mêmes biais justement en sciences et en journalisme, hein. La manipulation de données, ça peut exister, les conflits d'intérêts, ça peut exister, et l'idée, c'est d'essayer de faire en sorte que ça existe le moins possible et de réussir à les identifier, surtout en fait quand ça arrive. Et moi, j'y suis très sensible, justement, je pense, avec ce bagage un peu scientifique. Voilà, je sais là où il faut faire très attention sur comment on va présenter ne serait-ce que ça soit un graphique en science ou une information. La façon dont on va la présenter, même si le fait derrière est vrai, la façon dont on va la présenter peut la rendre faussée, en fait, ou la rendre en tout cas faussée dans la compréhension des gens.
Est-ce que tu sens que toi, à titre personnel, tu l'as dit, ça fait 4 ans que tu es dans la structure, ça fait 4 ans que tu as fait ton quotidien, enfin, tu as fait du photojournalisme ton quotidien, quoi, tu penses beaucoup plus à ça. Et tu as rencontré aussi des journalistes et des rédactions qui n'étaient pas forcément, je pense, enfin, dont les gens n'ont pas forcément les mêmes idées que toi. Est-ce que tu as évolué dans un sens? Est-ce que tu sens que ta pensée a évolué, ta vision du monde a évolué par rapport à ça?
Je pense que mes idées, mes valeurs sont restées assez fidèles à ce qu'elles étaient il y a quelques années. En revanche, oui, je pense que maintenant je comprends mieux en fait à force d'échanger ouais, sur des différents sujets avec des personnes qui ont des idées radicalement opposées aux miennes. Je comprends mieux en fait pourquoi ils ont ces idées-là et ça me permet d'avoir cette ouais, cette compréhension-là, et ça ne veut pas dire que du coup je me convertis à ces idées-là, mais en tout cas ça permet de voir ouais, comment ils en sont arrivés eux à cette conclusion-là qui peut être inverse à la mienne. Et après, en termes de plus généralement dans le monde journalistique, je pense que là j'ai pas assez de recul pour voir comment évoluent un petit peu les idées, mais ouais, ça serait intéressant sur le plus long terme de voir. Comment ça change justement?
Je sais pas si t'as vu la série Kabul Kitchen.
Non.
C'est une série qui passait sur Canal+ il y a un long moment et les gens qui nous écoutent connaissent peut-être. Et le pitch en gros, c'est un mec qui tient un bar à Kaboul, un bar d'expat. Donc en gros, c'est le seul bar de Kaboul où il y a une piscine bon, qui est clôturée de tous les côtés parce que t'as des nanas en bikini toute la journée dedans. Et si tu veux, c'est en pleine guerre d'Afghanistan, tu vois. Donc c'est des gens qui bossent aux Nations Unies qui vont pour se mettre une grosse murge parce que c'est le seul qui vend de l'alcool. Et en fait, le mec qui tient le bar, avant d'être taulier du truc et d'être trempé dans plein d'histoires louches et tout, enfin, avoir un sens très cynique de la vie, c'était un journaliste qui est devenu humanitaire et qui ensuite est devenu patron de bar et qui fait des trucs profiteur de guerre presque, tu vois. Et du coup, c'est le cheminement du mec qui au début était journaliste de guerre et allait sur les terrains. Mais en fait, à force de voir ça, il s'est dit, en fait, je veux faire encore plus que raconter l'histoire, je veux être humanitaire, aider les gens. Et après, il se rend compte qu'en fait, c'est foutu d'avance et
Ça marche
qu'il
pas,
faut être
clairement.
cynique et il profite du truc, tu vois. Et
Ouais,
je
c'est
trouvais
intéressant comme
ça.
chemin d'évolution
Ouais.
aussi, un peu négatif pour le coup,
Ouais.
mais oui, mais ouais, tout à fait.
Et c'est vrai que le fait de partir sur le terrain, tu te rends compte du fait que rien n'est blanc, rien n'est noir, qu'il y a toujours des gens qui ont des intérêts. Enfin, tu l'as dit, tu construis ta pensée en fonction de ce qu'on t'a nourri toute ta vie, en fait. Et puis le système médiatique qui n'est pas le même en France qu'aux États-Unis qu'ailleurs. Ouais, c'est intéressant. Hein.
Ouais, et puis après de venir, bah, voilà, on est à Visa là, et de venir à un festival comme ça, voir des expositions. Enfin, moi je découvre, pourtant je me tiens quand même assez informé de l'actualité de par ce métier, mais voilà, je découvre des fois des faits qui se sont passés dans l'année et qui étaient passés sous mon radar en fait, dont j'avais pas eu connaissance, en France un petit peu, mais surtout à l'étranger. Et ouais, c'est là où on se rend compte que bah, on n'a pas toutes les informations. Dans un monde très informé, il y a plein d'informations voilà, qui par choix des rédactions notamment passe un petit peu sous les radars, et puis parce qu'on n'a pas le temps ou pas forcément l'envie non plus de toujours tout suivre. Et c'est pour ça que c'est intéressant de se rendre aussi dans des festivals comme ça et choper ces informations à ce moment-là, qui sont en plus très bien documentées.
C'est clair. Puis Visa, c'est un peu comme un cours de journalisme aussi accéléré, dans le sens où tu comprends concrètement les mécanismes d'une rédaction, des choix éditoriaux. Tu vois, tu parles de choses qu'on n'a pas vues. Tu vois, au moment où on enregistre cet épisode, la France vient de gagner son premier match à Coupe du Monde de rugby contre les Blacks. Le lendemain, tu as 800 morts dans un séisme au Maroc. Ben, en fait, là, ça ne se superpose pas complètement, mais tu mets ça le même jour. C'est évident qu'il y a un événement qui restera dans la tête des gens et pas un autre. Et là, c'est tout simplement un truc qu'on appelle la loi du mort au kilomètre. Tu vois, quand tu es en école de presse, en école de journalisme, on t'explique que ce qui va se passer au coin de ta rue et qui va toucher ton pays marchera mieux que l'attentat suicide à Kaboul, quoi. Et ici, Visa, c'est un peu l'exact inverse. C'est-à-dire, on essaie d'inverser la loi du mort au kilomètre et on va te montrer justement les ravages de la guerre en Somalie, et on va pas te montrer la politique locale française, quoi. C'est intéressant de...
Et moi, il y avait un... je le fais plus, mais il faudrait que je m'y remette. Il y avait une époque où je lisais beaucoup Courrier International. Et en fait, ce que je trouvais très intéressant, c'était de voir la perception que d'autres pays avaient de la France, en fait. Et on se rend compte que des fois, c'est totalement différent du traitement médiatique de certains sujets qu'il y a en France.
C'est clair.
Et ouais, il y avait une époque où je lisais quasiment plus que ça, parce que ça me permettait justement d'avoir d'autres points de vue aussi, quoi. Et je trouvais ça beaucoup plus enrichissant.
Ah, c'est clair, c'est clair. L'abonnement Courrier International, c'est le meilleur cadeau que tu puisses faire à un ado ou à quelqu'un qui est un étudiant qui veut comprendre ce qui se passe dans le monde. Donc, tu fais partie de DR. Parlons un peu de DR. Un peu d'autopromo, c'est bien de temps en temps aussi pour expliquer. Qu'est-ce que toi, tu es venu chercher et qu'est-ce que tu retiens de cette histoire et qui est encore en train de s'écrire et qu'est-ce que tu en attends?
Je crois que si je me souviens bien, j'ai fait la demande pour rentrer dans DR un an à peu près après m'être tourné vers le photojournalisme. En fait, j'avais fait d'abord une semaine de workshop avec Édouard Elias, un petit peu par hasard en fait. Et à l'issue de ce workshop-là, je me suis dit, bon, enfin, c'est parti quoi, c'est vraiment ça que j'ai envie de faire maintenant. Et du coup, j'avais commencé à produire des sujets de mon côté, vraiment en autodidacte, avec quelques conseils que j'avais réussi à attraper à droite à gauche. Je m'étais entouré d'un mentor qui est devenu un ami, qui est dans une autre agence aussi. Et ouais, mais au bout d'un an, je voyais déjà les limites de travailler tout seul. Et comme beaucoup de collègues, je pense, qui sont dans DR, pour beaucoup, on est venu voilà, chercher. Un esprit d'équipe et le fait de se sentir moins seul, une structure, un cadre aussi, de la formation pour moi un petit peu au début. Et dans l'idée, voilà, c'était ça. La première année, je me formais. La deuxième année, je produisais et je commençais à essayer de m'insérer dans le milieu, en fait, qui n'était pas du tout le mien, hein, le photojournalisme. C'était quand même nouveau pour moi. Et la troisième année, voilà, l'idée, c'était de se sentir un petit peu légitime et de réussir à en vivre un petit peu, quoi. Donc maintenant, on est à la fin de la troisième année, enfin le début de la quatrième même. Et voilà, toujours là. Je me sens à ma place. Et ouais, DR m'a apporté beaucoup de ce que j'étais venu chercher, et puis plus encore. Je pense que dans un collectif, que ce soit DR ou d'autres, c'est quelque chose qui, enfin voilà, ça permet de continuer dans les moments où on a un petit peu envie de baisser les bras, parce qu'il y en a quand même pas mal hein, dans ce métier, que ce soit des difficultés financières, hein, c'est la photographie de presse reste un métier précaire, surtout quand on n'est pas salarié d'un journal. Quand on essuie des refus d'accès lors de reportages, quand on essuie des refus de bourses, de festivals, d'expositions. À chaque fois, c'est une remise en question de son travail et la question de bon, bah, je continue ou j'arrête? Est-ce que... Et voilà, et le collectif, ça fait continuer. Hein. Je pense que même si c'est quelque chose qui me passionne, je ne sais pas si tout seul dans mon coin, j'aurais eu la force de repartir à chaque fois que j'ai essuyé un refus, quoi. Donc, ouais, c'est vraiment très fort pour ça, quoi.
Qu'est-ce qui t'a aidé, quel a été peut-être le déclic pour toi pour oser aller faire des reportages, oser contacter les rédactions? Parce que c'est vrai que c'est un truc qui bloque beaucoup de gens, hein, le fait de se lancer concrètement. On rêve tous. Je pense que c'est un métier dans lequel on a plus ou moins tous les mêmes rêves, les mêmes objectifs, même en termes de publication, de titres, de magazines qu'on vise et tout. On veut tous National Geo, etc., qu'on ait 20 ans ou 65 ans. Et. Si tu veux partager un truc qui peut-être t'a aidé toi et que tu aimerais repartager là à quelqu'un qui se pose des questions sur est-ce que je dois y aller et comment je fais concrètement pour me sentir légitime, tu vois, pour aller voir les gens à Visa par exemple.
Je pense que quand on connaît ces sujets, qu'on a vraiment passé du temps dessus, déjà on se sent un petit peu plus sécurisé quand on va défendre ce sujet-là, essayer de le vendre, le présenter, même en parler même à d'autres personnes. Après il y a la question de voilà, est-ce que c'est un sujet qui a sa place ou pas dans un magazine, c'est encore autre chose, mais ouais, déjà, connaître ces sujets à fond, pas juste les survoler, s'intéresser vraiment aux questions, aux problèmes, à tout ce qui entoure le sujet, que ce soit un petit sujet ou un grand sujet, ça permet de se sentir légitime, à mon sens. Après, il y a plusieurs étapes, hein, je pense que quand on commence, ouais, on est dans l'apprentissage, on voit des expositions, des sujets dans des magazines, on se dit waouh, j'ai envie de faire des choses comme ça, et puis petit à petit, bah, on se dit ah bah tiens, ce sujet-là est très proche de celui que j'ai fait. Bon bah c'est que ouais, c'est que c'est possible, c'est que je me suis pas trop planté dans mon choix de sujet et que c'est faisable. Et puis l'étape suivante, c'est bah, là de décrocher voilà, une publication. Et ouais, ça se fait par petites étapes comme ça, ouais.
Toi, tu as déjà eu des publications, hein. Tu fais partie des membres bah, des plus anciens, mais surtout de ceux qui sont concrètement le plus bougés, qui ont fait le plus de sujets, qui ont beaucoup produit, qui ont beaucoup produit sur PixPalace aussi, des photos d'archives, d'illustrations, tu as eu des publications. Qu'est-ce que tu pourrais en dire? C'est quoi ce que tu retiens? Qu'est-ce que ça t'a apporté, peut-être au-delà de la maigre, on va dire, rémunération, parce que c'est pas le truc qui paye le mieux, hein. Ça, il faut le dire clairement, hein. On fait pas ça pour l'argent, je pense.
Ouais, je pense, enfin, si on veut être très très concret, il y a très peu de photographes en France qui vivent que de la photo de presse. Moi, je ne vis pas que de la photo de presse, je vis d'autres types de photographies aussi. Et les publications, bah, forcément, ça donne un petit coup de pouce à l'ego au moment où on la voit. Après, bon, ça, c'est toi qui le dis, mais tu as tout à fait raison, on se laisse facilement. Happé par justement ce petit coup de pouce-là et se disant bon bah c'est bon, j'ai eu une publication, c'est parti quoi. Puis 2 mois après, on se dit bon, peut-être que je m'y remette et on se fait facilement tous un petit peu avoir comme ça. Ça permet quand même de débloquer des portes. Je pense que la première, c'est un petit peu quand on sort d'études, le job le plus dur à avoir, c'est le premier quoi. On n'a pas encore fait vraiment nos armes et en même temps tout le monde demande de l'expérience. Et donc le fait d'en avoir, ça permet derrière voilà, de encore une fois se sentir un peu plus légitime. Je pense que voilà, sans tomber dans du démonstratif et du ouais, j'ai été publié à droite, j'ai été publié ci, j'ai été publié ça, il faut quand même s'en servir pour dire bah voilà, des personnes m'ont fait confiance, des personnes ont. Penser que ce travail-là était suffisamment bon pour être publié. Je pense qu'il faut pas il faut pas faire de la fausse modestie non plus. Il faut l'utiliser pour essayer de revendre d'autres sujets à d'autres magazines. Et ouais, je pense que quelque chose que j'avais du mal avant, c'est-à-dire tirer une rémunération de ce travail-là, du mal psychologiquement, hein, je parle d'estimer que mon travail puisse valoir quelque chose financièrement. Maintenant, je sais que ça, c'est un objectif clair. C'est-à-dire quand je pars en reportage, bon, je choisis les sujets sur des sujets qui m'intéressent quand même. et qui sont, je pense, dignes d'intérêt pour le grand public. Ça va être les deux critères de choix. Mais le troisième critère de choix, c'est aussi, voilà, est-ce que c'est un sujet qui va être rentabilisé, en fait? Est-ce que je vais gagner plus que ce que je n'ai dépensé pour le faire? Et y a des sujets qui demandent des petites dépenses et d'autres qui en demandent plus. Donc ça se réfléchit quand même et il faut quand même l'avoir en tête, quoi.
C'est clair. Bah, il y a un juste milieu entre ne jamais rien faire parce que ça coûte trop cher et en même temps ne pas le ne comment dire aller faire un peu tout et n'importe quoi en se disant de toute façon je vais financer ce reportage en faisant du corpo ou en faisant du mariage ou... parce qu'il y a beaucoup de gens et beaucoup de photographes qui sont très connus, hein. Je pense à des photographes qui sont passés sur ce podcast, tu vois, de la Trempe, de Bouvet, Chauvel, etc., qui disent que leur métier, ça a toujours consisté, même dans les agences Gamma, Sigma, aux belles heures de l'époque, de dire on fait une partie du boulot pour financer un autre type de travail, notamment la photographie documentaire ou de guerre. Concrètement, moi j'ai l'impression que finalement, et ce serait bien d'avoir ton avis sur ça, mais je pense que tu viens de donner un petit élément, c'est que le fait d'avoir cette petite gratification, mine de rien, de vendre quelque chose que tu as fait avec passion et que tu n'imaginais pas forcément, dont le but premier n'était pas de dégager de l'argent, tu vois, permet de durer sur le long terme au final. Parce que si tu fais que des trucs à perte, même si tu prends du plaisir, même si tu vois que c'est impactant pour les gens et tout, in fine, tu baisseras les bras parce qu'on est humain, quoi. Et si on n'a pas la gratification de quelque chose, c'est complexe,
Ouais,
quoi.
c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Et puis à un moment, faut aussi payer les factures à la fin du mois.
C'est clair.
Et faut être pragmatique là-dessus, quoi. Même si on n'a pas forcément envie de penser à ça
Ouais.
premier lieu quand on fait des reportages. Mais ouais, faut l'avoir en tête aussi.
Ouais, faut payer l'URSSAF quoi, hein, à un moment donné. Hein.
Tu payes l'URSSAF,
Ah putain,
toi?
ça... Ah, j'étais de bonne humeur là. Pour terminer, est-ce que tu peux nous parler du dernier sujet que tu as fait qui est super impressionnant et que tu as présenté à la douzaine, et je crois que j'ai perdu le compte, t'as mon avis d'icono cette
Quinzaine, ouais,
semaine,
quinzaine, je crois.
qui sont venus nous voir et qu'on embrasse et qu'on remercie tellement d'être venus nous voir parce que c'est vraiment chouette. Au-delà de pouvoir donner leur chance à des jeunes photographes en pouvant leur acheter potentiellement des sujets, ils ont été surtout ultra généreux en conseils. Ils sont restés plusieurs heures avec nous à chaque fois pour discuter, donner des conseils et tout. Je pense que tout le monde a appris des trucs. T'as présenté un sujet que t'as, dans lequel tu as été vraiment acteur du truc, dans le bon sens du terme, parce que souvent les journalistes se mettent en scène dans leur propre reportage, c'est parfois un style à part. Hein. Mais là, tu as fait un truc assez particulier, tu es parti, tu as utilisé des compétences tu l'as dit, de scientifique et de formation et d'aventurier qui navigue. Et c'est pas qu'un petit mot, quoi, parce que bah, concrètement, ça a consisté en quoi ton petit voyage là?
Ouais, donc ce reportage-là, c'est un reportage que j'ai fait du coup un petit peu avant l'été. Et donc j'ai suivi pendant un mois une équipe de scientifiques internationaux qui sont partis au cercle polaire arctique, là où l'océan arctique rencontre l'Atlantique Nord, en mer de Norvège. Et ils sont partis du coup étudier les masses d'eau, les courants, le plancton, les micro-organismes qui y vivent dans un contexte de changement climatique. Ils avaient besoin d'avoir des données sur cette zone-là, sur certaines interactions dans ces écosystèmes-là, et voir comment ça évolue pour ensuite pouvoir alimenter justement des modèles de prévision du climat, etc., par exemple. Et la particularité en dehors des objectifs scientifiques, c'est qu'ils avaient aussi un objectif de réduction de l'impact carbone. Et donc, plutôt que d'utiliser un navire océanographique classique, ils sont partis sur un voilier, et pas n'importe lequel, un vieux gréement, un deux-mâts en bois de plus d'un siècle, de 20 mètres de long. Et donc, je les ai suivis. On a passé, voilà, en tout et pour tout, 3 semaines en mer, un petit peu. Sur la côte, mais aussi au large, au bord du plateau continental, à envoyer des instruments scientifiques à 1000 mètres de fond. Et je dis on, puisque forcément, en fait, dans ce genre d'expédition en équipage réduit, tout le monde est amené à participer un petit peu à tout. Les scientifiques ont participé aux manœuvres de bord du voilier, ont fait leur quart de barre, les manœuvres de voile, etc. Et forcément, donc moi j'y étais. D'abord pour le reportage, photo et vidéo, puisque c'est aussi nouveau. Moi, Voilà, je me mets à la vidéo. L'idée là, c'est de produire un documentaire à 26 minutes sur ce sujet-là. Mais voilà, j'étais aussi là pour les aider dans la navigation, pour les aider quand vraiment il y avait besoin sur certaines manips scientifiques. Et l'idée, c'est de pouvoir vulgariser. En fait, c'est vraiment un des grands enjeux maintenant en science, de vulgariser le travail qui est réalisé. Parce que c'est important que ce qu'ils étudient ne reste pas dans la sphère scientifique, mais soit aussi accessible au grand public. Et je pense que voilà, quel meilleur moyen que la photo et la vidéo pour vulgariser ce genre de sujet-là, qui sont en plus très visuels. Et ouais, où il y a un petit côté aventure, un petit côté aventure maritime, viking, presque, pirate. Donc ouais, c'est des sujets qui... Moi, ça me tient à cœur parce que c'est des sujets où j'arrive justement à relier science et photojournalisme et thématiques environnementales en plus. Donc moi, c'était un objectif que j'avais un petit peu dans un coin de la tête depuis quelques temps. Et ouais, là, ça y est, ça s'est fait. Donc j'ai eu un moment pendant l'expédition, je me suis dit, ouais, c'est ça que... c'est pour ça que je suis là. Et c'est dans ces moments-là qu'on est content de ne pas avoir lâché avant, quoi.
Ouais, c'est clair. C'est clair. Bah, le secret, enfin, la conséquence, c'est de durer. Enfin, ce qu'on voit, les meilleurs, bah, ils sont toujours là, ils continuent de produire et puis ils s'éclatent. Et ça commence par des petits projets, ça finit par des trucs beaucoup plus ambitieux. Et là, quand tu regardes le chemin parcouru, tu es fier de toi et tu trouves du sens à ce que tu fais. Et... C'est chouette. Est-ce que tu veux partager un dernier conseil avant de mettre fin à cet entretien?
Abonnez-vous.
Abonnez-vous à Défense Zone.
Non, venez à Visa si vous n'êtes jamais venu à Visa pour l'image ou d'autres festivals photo. Allez voir le travail des autres photographes, c'est toujours intéressant.
Ouais.
Toujours nourrissant.
C'est un bon conseil. Merci Oscar.
Merci Fred.
Et à bientôt.
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à vous abonner pour ne pas rater les prochains grands entretiens. Si vous êtes photographe professionnel et que vous souhaitez accéder à des ressources plus poussées pour vous aider à booster votre activité, j'ai préparé pour vous une boîte à outils numérique que vous pouvez télécharger en description de cet épisode. Je vous laisse découvrir tout ça tant qu'elle est encore disponible gratuitement et je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode du podcast.